Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très ravis quand nous sommes en contact avec vous, quand ils sont même d'ailleurs 11h sur votre radio. C'est de lundi à vendredi, vous comprenez que c'est le rendez-vous à l'heure du Club de la Presse. Nous sommes au mardi 16 juillet 2024, 11h sur votre radio. Et c'est le deuxième numéro à l'heure de l'émission pour le compte à l'heure de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était Kossi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lesso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, Justin Anani, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous suivent en ce moment. Et bien de choses à tout le monde.
Voilà, bien démarré la semaine.
Oui, très bien. Vous savez que ces derniers temps, les week-ends sont tellement très occupés. Les funérailles par ici, des reportages par là. Donc, dans tous les cas, on s'est bien réveillé et Dieu merci.
Dieu merci, c'est l'essentiel. Alors, je pense que lui aussi s'est bien réveillé. Je veux bien parler alors de Jean-Baptiste Tissot. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui.
D'accord, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Écho du Monde et aussi le site d'information Corps Diplomatique, hein, c'est ça?
Oui, justement, Corps Diplomatique News.
News, voilà. Oui, justement. Comment ces deux organes se portent?
Ah, nous rendons grâce à Dieu par les efforts que nous fournissons et aussi par le biais de nos partenaires et surtout aussi de nos lecteurs qui nous encouragent à travers leurs réactions.
Tout à fait.
Je crois que nous faisons le chemin par la grâce de Dieu.
Vous faites alors le chemin par la grâce de Dieu. C'est important. Alors, je sais que déjà, nos auditeurs pourront aussi participer à cette émission déjà à partir à l'heure de midi. Nous leur donnons la parole alors de participer, hein, de s'impliquer aussi dans ce débat. Mais je ne le laisse pas alors s'installer avant de lui dire un petit bonjour. Bonjour Sam.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour aux invités. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de La Nouvelle Génération.
J'espère que vous allez bien.
Ça va, ça va. À chaque fois qu'on respire, moi je pense qu'il faut remercier le ciel.
C'est l'essentiel.
Ouais, c'est le plus important parce que l'idée n'est pas d'avoir de l'argent ou d'avoir une fortune, mais l'idée même c'est d'avoir de la santé.
Voilà.
Et quand on a la santé, il faut remercier le Seigneur.
Et il semble qu'il n'y a absolument rien qui peut remplacer la santé.
Oui, rien du tout parce que vous allez voir ces messieurs qui ont des fortunes. Mais faute de santé, qui n'arrive pas à en jouir, ou faute de santé, on va prescrire tous les médicaments de ce monde. Vous avez beau avoir eu de l'argent pour vous en acheter, mais tant qu'il n'y a pas la santé, je pense qu'on ne peut rien faire. Donc le premier élément vital dans la vie d'un homme, c'est la santé.
Justement, c'est la première richesse même d'ailleurs de l'homme, donc c'est la santé. Dieu merci, nous avons vraiment cette santé. Nous faisons un clin d'œil aussi à tous ceux qui sont aujourd'hui sur leur lit d'hôpital et nous leur souhaitons prompte guérison. Alors, nous sommes au mardi déjà, nous avons la chronique littéraire bien sûr que nous animons et c'est Claude Assiobotis qui nous aide à animer bien sûr cette chronique littéraire puisque lui-même il est chroniqueur. Et Claude, bonjour.
Bonjour, bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, ça peut aller, oui.
D'accord. Alors Claude, c'est vrai que nous avons entamé une discussion littéraire le mardi dernier. On revient sur le concept alors même de l'écrivain. Et vous avez classé alors les écrivains la dernière fois en trois catégories. L'écrivain du devoir écrit, l'écrivain du vouloir écrit et l'écrivain du pouvoir écrit. Alors pouvez-vous mieux nous expliquer ces concepts et nous les illustrer avec les écrivains togolais?
Souvent, lorsqu'on parle d'écrivain, le mot est réservé aux écrivains artistes. Hein. C'est ceux qui sont capables d'inventer, de créer par la beauté des mots et la beauté de leur imagination. Hein. Qui écrit des romans, des pièces de théâtre, la poésie, et c'est ça qu'on appelle l'écrivain. Mais globalement, c'est tout ce qui communique à travers un livre. Et à part les livres des idées toutes faites, par exemple les manuels, c'est pas vous qui les créez, mais des idées qu'on a élaborées soi-même, qui a une valeur ajoutée. Hein, là, je... Ça, c'est, tout ça, c'est des écrivains. Je peux reprendre même les concepts un à un pour mieux l'expliquer. L'écrivain du devoir écrire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est au cœur de tout ça, il y a les idées qu'on veut communiquer. Et l'écrivain du devoir écrire, c'est l'écrivain qui a besoin de communiquer prioritairement ses idées. Et il utilise souvent ce qu'on appelle l'essai. Hein, lui, il n'écrit pas de roman, il écrit l'essai, c'est une argumentation. Hein, directement, il s'adresse au récepteur par une argumentation. Et si je peux vous donner l'exemple au Togo, c'est par exemple Kakoumbouba. Hein, Kakoumbouba, qui a des idées et qui communique par les livres. Vous avez votre collègue Fibé Atissot, hein, qui voilà. Communique aussi par les livres, bien que ce soit journaliste. Vous avez au même Tété Godwin. Leur besoin premier, c'est de vous atteindre par leurs idées à travers le livre. Hein? Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écrivain du devoir écrire. Et l'écrivain du vouloir écrire, c'est l'écrivain qui a envie d'écrire et qui a envie, mais qui essaie plus ou moins. Mais qui est limité dans son art. C'est aussi l'écrivain, c'est un écrivain artiste, mais qui est un peu limité dans son art, il est moyen. On appelle ça l'écrivain mineur.
Et souvent, qu'est-ce qui le limite hein, dans ses œuvres?
Oui, ce qui le limite, c'est l'insuffisance de, disons, de talent ou de travail. Parce qu'il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup de travail. Il faut transpirer au-delà de l'inspiration. Il arrive à un niveau et puis il croit que c'est déjà cuit et puis c'est fini. Hein, c'est ça qui le limite. Hein. Donc là, je ne vais pas donner l'exemple pour ne pas faire des méchants d'affaires, des jaloux, de tout ce que vous voulez.
Des
frustrés, voilà le mot. Mais l'écrivain du pouvoir écrire, qui a le pouvoir d'écrire, c'est ça dans le sens qu'il faut prendre le mot pouvoir d'écrire. C'est l'écrivain qui a le don, le talent, qui a la force de travail et qui arrive à communiquer avec une certaine puissance d'émotion, ses idées. Des émotions qui communiquent même au lecteur. Hein, hein, c'est, il communique les idées, c'est, il communique aussi des idées, comme l'autre écrivain, mais à travers l'émotion, à travers sa sensibilité, à travers son regard particulier qu'il a sur le monde.
Hein? Et là, est-ce qu'on peut avoir aussi des exemples hein?
Oui, mais je vous donne des exemples. Et justement, à ce niveau, il ne faut pas confondre l'écrivain à succès avec l'écrivain du pouvoir écrire, et que j'appelle encore l'écrivain majeur. Et je vous donne un exemple au Togo. C'est Janet Ahonsou. Hein, Janet Ahonsou que personne ne connaît.
Oui, paix à son âme.
Un paix à son âme, hein, qui a une puissance de communication, pas les mots, et par sa création littéraire, mais que personne ne connaît.
Enfin,
qu'on ne connaît pas beaucoup. Mm. Je ne vais pas vous citer les grands ténors. Hein. Notre malheur, le malheur de notre littérature, c'est qu'il faut passer par l'extérieur pour se faire connaître à l'intérieur. Mais il y a des écrivains de talent, de grand génie à l'intérieur, qu'on ne connaît pas.
Alors, Claude, oui. Est-ce que le devoir écrire s'oppose forcément au pouvoir écrire?
Non, pas nécessairement. Il faut distinguer. Même le devoir d'écrire, le devoir écrit de ce que j'appelle le devoir d'écrire. Et ça les réunit. Le devoir d'écrire, contrairement au devoir écrit, le devoir d'écrire, c'est ce qu'on appelle communément et vulgairement l'engagement. C'est que vous avez le devoir d'écrire. Par exemple, lorsque vous devenez célèbre, comme Kakoumboupa, comme Afibia Tissot, tout ça. Et vous devez communiquer vos idées. Lorsque devant des problèmes de la nation, par exemple, vous êtes muet, vous ne communiquez pas, vous êtes coupable.
D'accord, vous êtes coupable.
Vous êtes coupable. Mmh. Voilà, à peu près, c'est ça. Et ça, ça unit l'écrivain du devoir écrire et l'écrivain du pouvoir écrire. Mmh. Victor Hugo ne pouvait pas se taire lorsqu'il y a le pays en danger. Et Lamartine l'a dit, malheur à qui chante quand Rome brûle. Mmh. Voilà, c'est ça. Lorsque Tété Godwin ou Fibra Tissot écrivent ou Kakounoubro, ce n'est pas simplement pour émouvoir. Ils veulent dénoncer. Mmh. Les deux écrivains veulent dénoncer quelque chose, une situation. Voilà, c'est ça qui les unit. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il y a une différence. C'est que l'écrivain du pouvoir écrit, qui fait la fiction, qui est artiste, il est plus libre. Hein. Il invente des histoires. Il n'est pas astreint à la vérité. Les premiers sont astreints à la vérité. Hein. Si un journaliste qui veut écrire un livre s'écarte de la liberté, eh bien, le tribunal va le convoquer. Hein, vous voyez, il n'est pas libre. D'accord. Par rapport à la liberté. Mmh. Alors que l'écrivain de roman, de poésie, il est libre. Ben, il peut inventer. Hein. Il peut parler du Togo sans donner l'aide. Il peut parler du Togo.
Il a
une liberté d'invention. D'accord. C'est ça, d'imagination. Mmh. Voilà la différence.
Voilà. Alors, Claude, dans tout ça, où placez-vous alors les écrivains de ce qu'on appelle la paralittérature, c'est-à-dire ceux qui veulent écrire seulement pour nous amuser, des aventures, des histoires d'amour. Où placez-vous ces écrivains?
Oui, je dirais que ces écrivains, c'est aussi des écrivains mineurs. Mais le problème, c'est que ils donnent plus priorité à l'émotion qu'aux idées. Hein, c'est ça, l'émotion. Ce qui les intéresse, c'est d'émouvoir, de la sensation. Et lorsque vous avez les collecteurs, ça suffit. Donc, c'est un peu comme un médicament, c'est le placebo qui est important. Hein. L'essentiel, c'est de vibrer. Et c'est ça, l'écrivain de paralittérature. Ils vendent beaucoup. Mais l'écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui veut communiquer des idées graves. Des messages, hein, mais ils utilisent les mots. Voilà.
D'accord. Alors, c'est vrai que vous nous avez parlé aussi d'expressivité, d'originalité et de profondeur qui caractérisent les écrivains du pouvoir écrit. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples dans la littérature togolaise?
Oui, avant de mieux vous expliquer ça, je veux préciser quelque chose sur l'écrivain de la paralittérature. Oui. Il y en a qui peuvent écrire, ont l'air d'écrire un simple roman d'amour. Vous savez que l'amour, c'est un thème qui nous flatte souvent, hein, etc. Comme on voit ça dans les feuilletons. Mais vous allez voir une profondeur psychologique. Ça c'est le plus bas. Et parfois, les frontières sont poreuses. Hein, donc, on ne sait pas pourquoi que c'est de la paralittérature, mais il y a de ces écrivains-là qui émergent. Par exemple, Siménon, hein, ce n'est pas. Il est comme paralittérature, mais il est. Bon, etc. Bon, maintenant, pour les expressions, je vais parler de l'expressivité, de l'originalité, de la profondeur. Là, je vais vous donner des exemples précis pour que vous compreniez mieux. L'expressivité, c'est votre capacité à donner puissance à votre imagination et à vos mots pour combler le message. Et les Anglais disent « meaningful ». Vous dites tellement les choses, la façon dont vous dites, ça comble le lecteur. Hein. C'est ce qu'on appelle l'expressivité. Hein. L'exemple que je peux donner au Togo, je ne veux pas donner l'exemple que j'ai connu. Pour la poésie, vous avez quelqu'un comme Renaud de Savy.
Voilà.
En poésie, et vous prenez le théâtre, vous avez quelqu'un comme Douty, j'oublie son petit nom là, qui a écrit.
Marlène Douty.
Oui. Hein. Et vous prenez le récit, et bon, j'en oublie, mais vous avez ces deux exemples là.
Tout à fait.
Ça, c'est l'expressivité. Vous dites les choses avec puissance, que tel que on ne peut pas être indifférent. Et vous avez l'originalité. Vous prenez par exemple Pedro Amar, hein, qui veut écrire une pièce de théâtre, mais il écrit comme un roman, mais. Et tout en restant attractif, c'est pas artificiel, hein, parce qu'il y a les règles du roman à part, les règles du théâtre à part, mais lui, il prend le théâtre et il écrit un roman. Et c'est sa façon. C'est très original. Et
justement.
Voilà. Alors, et je peux vous expliquer la profondeur. Je vais vous expliquer la profondeur. La profondeur, c'est par exemple le Monseigneur Bariga dans sa pièce Le Trône Royal. Hein, il écrit, l'écriture est simple. Hein, l'écriture est simple. Il parle de.
Mais profond.
Voilà. Il parle du pouvoir théocratique animiste. Mais vous posez des problèmes très graves, des problèmes évangéliques, des problèmes philosophiques. Par exemple, est-ce que l'individu doit obéir simplement aux règles de la société, à la loi de la société, au point de désobéir, de briser la morale, d'aller contre la morale? À partir de cette idée simple, il pose des problèmes philosophiques très graves. Voilà ce qu'on appelle la profondeur. Vous avez il a l'impression de s'amuser, mais il dit des choses extrêmement graves. C'est ce qu'on appelle la profondeur. Mais ce n'est pas, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas cumulatif. Hein. Et il suffit d'avoir soit l'expressivité, soit la profondeur, soit l'originalité, ou les deux, les trois, et vous êtes un écrivain majeur.
D'accord. Voilà. Alors, pour finir, pour ce qui concerne surtout les critiques littéraires, oui. Est-ce qu'il en existe alors au Togo
au Togo, non, je crois que le Togo, il y a des critiques, mais je crois qu'il y a des critiques de soutien. Hein, les critiques de dogmatiques, j'en connais pas. Il y a des critiques de soutien, vous savez, parce qu'on est dans un contexte de d'édition à compte d'éditeurs.
D'éditeur, voilà.
Tu vas pas, si tu te mets à démolir. Et puis, tous les écrivains, ils veulent qu'on les encense. Au Togo, c'est ça, hein, le malheur. Tous veulent qu'on les encense. Si vous les égratignez un peu, ils peuvent vous attendre. On peut m'attendre là-bas. Au portail de. Bon, voilà, ça ne sert pas.
Quand il y a même d'ailleurs de ces critiques, ça améliore plus les critiques.
Oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Je me souviens, Edem Kodjo, feu Edem Kodjo nous disait ça. Lorsqu'on faisait l'émission à TVT, il dit mais dites ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est ça la réalité.
Mmh. Bon, voilà. D'accord. Bon. Oui, merci beaucoup, Claude.
Bon, je peux vous résumer un tout petit peu, si vous avez le temps. Hein,
sinon... Non, je pense que le temps est déjà parti. D'accord. Mais voilà, merci beaucoup, Claude, d'être passé dans cette émission.
D'accord.
Ça fait toujours plaisir de
d'accord.
vous avoir.
D'accord.
Voilà, nous restons toujours en contact pour une nouvelle chronique à l'heure de la littérature.
D'accord.
Et merci de nous avoir expliqué tout cela.
Merci. D'accord, merci.
Voilà. Alors, chers confrères, nous revenons en plateau. C'est vrai que quand on parle à l'heure de la littérature, c'est aussi la culture. Et nous allons entamer justement, nous sommes au mardi et vous savez que mardi nous parlons plus à l'heure de la culture et déjà à la une à l'heure du journal l'Union pour la Patrie ce matin, le journal écrit et voilà 2024, un pays kabyé, toutes tendances confondues, ils sont tous dans les arènes. L'éveil de la nation, Sam Diobo, vous avez titré aussi sur le sujet dans votre journal d'aujourd'hui et voilà 2024, les empoignades se poursuivent en présence du chef de l'État. Alors nous savons que déjà depuis le samedi 13 dernier, il y a c'est les luttes qui ont commencé dans la Causa, bien sûr. Et ces luttes alors continuent ou se poursuivent alors dans la préfecture, c'est bien ça?
Oui, les luttes Ezevala, c'est une tradition qu'on ne présente plus aux Togolais parce que ça fait plusieurs décennies que le peuple kabyé pratique cette tradition et c'est des luttes initiatiques au cours desquelles les jeunes atteignent l'âge de maturité, ils rentrent dans la vie active. Quand on vous explique, il y a des étapes et je crois que Ebala, c'est la dernière étape pour rentrer dans la vie active, épouser une femme, trouver du boulot. À partir du moment où on se prête à cette tradition, je crois que le jeune Ebalo, il prend toutes ses facultés pour devenir un homme solide, un homme complet pour la société. Et donc, depuis samedi dernier, le peuple togolais, le monde entier vit cette tradition en présence du chef de l'État qui, rappelons-le, est originaire de la localité. Et donc, les empoignades ont commencé et ça doit durer une semaine. Et la grande attraction, souvent, pour ceux qui ont l'habitude d'aller à cette tradition, la grande attraction, c'est le jeudi. Le jeudi, c'est la grande finale dans le canton de Pia, où il y a beaucoup plus d'engouement que dans les autres cantons, du fait même que le chef de l'État, il est originaire de Pia, et les amis, les soutiens, tous les natifs de Pia, ils ont des invités, les gens de la diaspora qui viennent, et c'est une grande attraction, parce que par le passé, nous-mêmes, on y allait pour des couvertures, mais vu qu'on a pris de l'âge, on a passé le témoin aux jeunes, plus jeunes journalistes, pour nous faire ce reportage, et c'est justement le reporter de l'Éveil de la Nation qui a fait le papier que nous avons publié ce matin.
Alors justement, quand on voit ces attractions, hein, justement au niveau alors de la COSA, de la préfecture de la COSA, ça veut dire tout simplement que pour ce qui concerne nos cultures, il est très important quand même de valoriser ces cultures.
Oui, tout à fait. Quand vous analysez ce que nous suivons, ce qui se passait de par le passé, vous allez également vous rendre compte que ça vaut la peine. Sauf que le cas du Togo, vous comparez dans tout ce qui se passe dans les autres pays, notamment au Bénin voisin, on a tendance à politiser. Donc tout ce qui est la tradition chez nous, tout ce qui est, c'est pas initiatique chez nous. On le dit souvent, quand on parle de Zébala, c'est pas une fête traditionnelle. Donc c'est une occasion d'initiatique. Initier les Évalos et les Évalas. Mais malheureusement, le cas du Togo, on a tendance à politiser. Vous allez dans l'administration aujourd'hui et c'est pratiquement vide. Vous vous demandez, d'après les généraux, comme on l'appelle les secrétaires généraux, les cadres de l'administration, beaucoup se retrouvent à Accra. Et Sam en parlait tout à l'heure. L'attraction, c'est Accra le jeudi, donc il va falloir que tout le monde se présente. Quelle fin,
c'est une exigence, ce n'est pas une imposition quand même.
Je ne saurais le dire, mais la manière dont la conception est faite et par rapport à la façon dont ça se passe, ça interroge. Et comme quelqu'un a eu à le dire ces derniers temps, eh bien, il va falloir quand même décréter cette période de la fête des Évalas comme période fériée. Pour que lorsque vous avez peut-être un document administratif à faire, donc vous allez attendre le retour des cadres qui se retrouvent aujourd'hui à Accra. Donc tout est politisé. Il faut avoir le sens et la responsabilité de le dire que tout est politisé. Ça ne devait pas se passer comme ça. Parce que l'autre question qu'il fallait se poser est de savoir si demain ou après-demain, il y a encore d'autres événements culturels ou traditionnels, est-ce que ça va se passer de la sorte telle que ça se passe? Et les sponsors, je ne pense pas que le comité d'organisation les sollicite avant que ces sponsors-là se bousculent. Donc il y a deux poids, deux mesures. Donc quand vous vivez dans une république comme ça, quelqu'un le disait la fois dernière, moi je me dis, mais si ça se passe comme ça, ça veut dire que vous reconnaissez que l'administration togolaise est politisée. Et c'est clanique. C'est-à-dire, quand on me dit que tous les cadres viennent de là, et que c'est pourquoi il y a l'attraction de l'autre côté, moi je dis qu'il y a un problème. Donc, faire en sorte que lorsqu'on parle de la fête culturelle dans notre pays, que ce soit équitable, qu'on n'arrive pas à politiser.
D'accord. Jean-Baptiste, finalement, on a l'impression comme si, déjà, pour ce qui concerne les autres fêtes traditionnelles, l'engouement n'y est pas comme cela se passe à Accra. Alors, c'est quoi le souci?
C'est quoi le souci? Peut-être c'est aux autorités de répondre. Parce que, à ma souvenance, à part les rites Évala, je n'ai pas vraiment souvenance que le chef de l'État lui-même se présente personnellement aux fêtes traditionnelles des autres préfectures, pour ne pas dire les autres localités, parce que notre pays, si on prend la référence, la préfecture comme référence, nous avons 39 préfectures, et si au niveau de la COSA seule, il se présente, ça veut dire que dans 38 autres préfectures, il est absent, et parfois il se fait représenter par généralement le ministre de la Culture, et parfois un autre membre du gouvernement, mais il est aux affaires depuis 19 ans déjà qu'il est aux affaires. Je crois que pour ne pas faire des frustrations, pour vraiment donner la même valeur aux fêtes traditionnelles qui se déroulent dans notre pays, il va falloir que la place qu'il accorde à la fête traditionnelle Évala, cette même place soit accordée aux fêtes qui se célèbrent dans les 38 autres préfectures, pour ne pas créer justement la frustration ou le désintérêt pour les autres préfectures. Parce que ce que nous observons, c'est que aujourd'hui, il y a une prééminence de fêtes et voilà sur les autres, parce que justement le chef de l'État est originaire de cette préfecture de la Kosa et ça ne devrait pas être ainsi. Soit il ne se représente pas du tout et il laisse le ministère de la Culture qui est normalement le plus habilité à participer à ces fêtes-là, représenter le gouvernement sur toutes les fêtes au niveau de la nation, pour ne pas vraiment créer de la frustration ou du désintérêt par rapport aux autres fêtes. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous observons à Kara, et surtout la mobilisation même au niveau des partenaires qui accompagnent ces fêtes-là, qui peut-être pour aller faire des affaires, mais je crois que ces sociétés qui se mobilisent devraient normalement le faire pour les autres fêtes. Mais on ne voit pas ça. On ne voit pas cet engouement derrière les autres fêtes au niveau des autres préfectures. Donc, je crois que pour ne pas faire deux poids, deux mesures, il revient au chef de l'État. Soit, on sait qu'il est originaire de cette préfecture, mais laisser libre cours au ministre de la Culture faire le travail.
Ah, d'accord. Et Sam, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures?
Non, moi, je ne fais pas mon analyse sur... Dans le même sens que ce que Jean-Baptiste vient de faire, mais ce que je constate, c'est que le chef de l'État, dès son accession au pouvoir, a participé à certaines fêtes traditionnelles. Par exemple, moi, je suis originaire de Tchaoudjo. Il y est venu deux fois pour la fête à Dosagadao. Dès l'entame, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il est venu. Mais après, chemin faisant, pourquoi il n'a pas continué, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Maintenant, la différence entre les traditions, ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe dans la Kosa, c'est que dans la Kosa, la tradition, cette tradition leur prend une semaine entière. Par contre, quand vous prenez par exemple Sokodé pour Adosagadao, l'apothéose c'est en un seul jour. Sûrement au niveau des lacs aussi, l'apothéose, ça va être aussi en un seul jour. À Bassar, c'est en un seul... C'est toujours une seule journée. Mais là-bas, je ne sais pas comment la tradition a été conçue, puisque je ne suis pas de là-bas, pour que ça dure autant de temps. Et ça fait une semaine que ça dure. Et c'est vrai, Justin Anani disait que quand on arrive dans l'administration, les gens sont partis. Ceux qui sont originaires de là profitent de l'occasion pour prendre leur congé annuel. Parce que par exemple, si j'ai un garçon qui doit lutter, je ne peux pas laisser mon garçon aller faire la tradition sans que moi-même je ne sois là. Donc il y a cet aspect-là aussi. Mais il y a aussi des curieux ou des gens aussi qui, par sympathie, peut-être le directeur de cette administration, il est originaire de là-bas. Donc il y a de ces zélés qui vont dire bon, ok, nous accompagnons notre patron pour cette fête. Ce qui ne devrait pas être le cas.
Voilà.
Mais ça ne bloque pas pour autant l'administration. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, si par exemple je veux un casier judiciaire, parce que le chargé du service de casier judiciaire est originaire de là-bas, quand je vais arriver, on va me dire que non, que le directeur est parti aux Evala, donc ce n'est pas possible d'avoir le casier judiciaire. C'est vrai qu'il y a la continuité de l'État, mais toutes les autres villes, toutes les autres traditions devraient être logées à la même enseigne, de sorte à ce que, si c'est une semaine, comme ça se passe à Kara, une semaine, et puis les partenaires, les sociétés ont eu l'imagination fertile, on a créé d'autres événements à côté des Evala. Quand vous arrivez, il y a par exemple un événement MIS, il y a une foire, il y a beaucoup d'activités en cette période qui font que vraiment la ville de Kara bouge autrement en cette période. Mais les arguments l'un mis dans l'autre, moi je pense qu'il est important quand même que toutes les autres villes, toutes les traditions soient logées à la même enseigne. Ou alors qu'à Kara, qu'on essaie d'identifier pendant toute la semaine-là, le jour qui sera désormais le jour de grande apothéose pour la fête des Evala, et je pense que ça pourra essayer de donner un équilibre à tout ce que nous faisons.
Oui, je sais, aujourd'hui on a besoin vraiment de l'équilibre, hein, pour que du moins chaque Togolais se sente bien sûr dans sa culture comme cela se passe.
Oui, effectivement, on a besoin de l'équilibre, mais sauf que moi je dis que le jeu est faussé d'avance.
En quoi le jeu est faussé?
Ça dit que d'où nous venons? Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comment? Où en sommes-nous aujourd'hui? Il faut faire la part des choses, l'évolution dans le temps et dans la durée. Mais la question, les facteurs là qu'on a mis ensemble et qu'aujourd'hui on en est là. Donc c'est à l'image de la façon également où le pouvoir d'État est géré. Donc ça va devoir être un peu difficile. Il y a des gens qui se mobilisent, c'est parce que c'est le chef de l'État qui est à Kara. Peut-être que je ne suis pas à Kabier ou je ne suis pas quoi, mais je veux forcément y aller pour qu'on me voie. Peut-être que demain, s'il doit y avoir redistribution des cartes, je peux en bénéficier. Donc, il y a des calculs qui sont faits autour. Et c'est parce que les plus méritants n'arrivent pas à avoir la responsabilité, parce que il faut être là pour avoir un poste. Je ne suis pas là, est-ce que je peux en avoir? Donc pour en avoir, donc il va falloir que je fasse
Est-ce qu'il suffit tout simplement que le chef de l'État vous voit et qu'on vous donne alors un poste?
L'impression, moi j'étais dans les lacs le dimanche après notre émission sur une chaîne de la place là, on a eu à rencontrer certaines personnes à qui on a discuté. Il y a des gens qui se mobilisent, certains gens sont déjà partis, d'autres vont encore partir, peut-être on me disait que c'était hier ou c'est mardi, aujourd'hui ils vont partir. Bon, lorsqu'on cherchait à comprendre
dans la perspective d'un poste
on a eu à écouter beaucoup de choses parce que il y avait un sujet qu'on avait traité la fois dernière par rapport à l'organisation également de la fête des PEP dans les lacs. Maintenant, quels sont les tenants, les aboutissants, comment est-ce que ça a évolué et où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on va encore vivre les mêmes problèmes? C'est la problématique que nous avons eu à discuter dans l'émission. Mais ça a plu, certains, ça n'a pas plu. Et c'est tout, certains ont voulu nous raconter après et puis on les a rencontrés. Ils ont évoqué des arguments. Donc, sur la base de ce qui se passe à Kara, je dis que ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, à moins que le pouvoir change. Si le pouvoir ne change pas et que c'est les mêmes qui sont aux affaires, ben, vous n'allez pas se départir de ce qu'on vit à Kara. Parce que ça a un fondement qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il va falloir également faire en sorte que ben, si demain ou après-demain ça change, bon, bah voici l'équilibre dont on parle, ça va être de mise.
D'accord. Jean-Baptiste, est-ce que ce n'est pas aux fils et filles hein, des différentes localités d'arriver à promouvoir leur propre culture, ou du moins de donner le sens qu'il faut vraiment à cette culture?
Oui, cela relève bien sûr peut-être de la contribution des fils et filles des localités concernées, mais je crois qu'il faut une politique culturelle et ça doit émaner des décideurs, notamment du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui décide qui décide de la politique culturelle, et là tout le monde sera moulé dans cette dynamique.
Mais si le gouvernement ne viendra pas fêter ou célébrer à Isan à la place alors des fils et filles de Thélier.
Je conviens avec toi, mais c'est-à-dire que peut-être les moyens qu'on, c'est-à-dire que ce qu'on a mis comme moyen au niveau de Evala maintenant, ce ne sont pas les mêmes moyens qu'on mettra au niveau de Rogozan, de chez nous par exemple dans le Yoto. Vous voyez, donc ce qui est débloqué pour organiser comment l'appelle-t-on, Aïzan, je ne sais pas, ou bien peut-être dans le Vaud à Tienoukouzan, ce ne sont pas les mêmes moyens qui sont débloqués ailleurs. Et vous allez voir, il y a beaucoup de sociétés qui vont débloquer des millions pour organiser ces fêtes-là, ou bien peut-être pour appuyer l'organisation de ces fêtes. Peut-être je vais te surprendre avec un rapport que j'ai vu d'une société. Je suis originaire de Yoto. Il y a une société qui avait débloqué, je crois, 8 millions pour appuyer l'organisation des Evala, alors que Rogozan, qui est la fête de ceux qui sont originaires de Yoto, la même société a débloqué 2 millions. Voyez, donc vous voyez,
c'est la faute à qui?
C'est la faute à qui? Non, c'est pour pouvoir. Vous voyez que justement, on parlait tout à l'heure de la politisation ou de comment l'appelle-t-on, de la politique de deux poids deux mesures. Ce qui se fait, c'est ça la triste réalité, parce que
la société est libre alors de financer qu'elle veut.
Libre de financer, ça c'est vrai. Mais si par exemple vous exploitez les ressources d'une préfecture donnée, et la préfecture, ceux qui sont originaires, ils ont une fête, vous débloquez 2 millions, alors qu'une préfecture dans laquelle vous n'hésitez pas, vous allez débloquer 8 millions. Vous voyez ça que c'est.
Il y a un aspect que Pascal a évoqué, oui. Que je crois que Jean-Baptiste n'a pas suffisamment cerné ça. C'est-à-dire que c'est la contribution des cadres et des natifs des localités. Parce que la fête traditionnelle, c'est d'abord un marketing. Je ne sais pas si tu conviens avec moi que la société qui exerce sur les terres de Yoto là-bas,
c'est ça.
C'est vrai que si vous ne faites pas une approche, si vous n'avancez pas vers eux.
Non. Tu ne comprends pas le bien fondé de la chose. Les gens sont là pour pouvoir avoir la même mise des autorités et continuer par exploiter.
Mais pour la fête, je parle de la fête.
Oui.
C'est un truc qui se passe une fois l'an.
Oui.
Et donc, il y a souvent ce qu'on appelle comité d'organisation.
Oui.
Dans le comité d'organisation, il y a des comités de mobilisation de fonds.
Oui.
Si vous n'avez pas une bonne stratégie pour mobiliser les fonds,
vous savez,
les gars vont vous donner 2 millions et aller donner 10 millions ailleurs.
Non, en vertu de quoi?
Oui, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas bien travaillé. Non, c'est le coaching qui n'a pas
été... Le problème, non, il ne faut pas dévoyer...
D'accord. Non, je ne dévoie pas. Par exemple, moi, je suis de... Souvent même, moi, je fais partie de la commission de mobilisation de fonds. La stratégie que nous mettons sur place, c'est d'approcher ces sociétés, toutes les sociétés
vous
qui sont
approchées
à ce côté.
Vous approchez, vous approchez.
Non, ça dit que Jean-Baptiste, on va faire un débat civilisé. Ça dit que je vous explique comment ça se passe. Ça peut vous servir même de mot d'emploi pour les prochaines éditions chez vous. Sur la base de ce que nous nous faisons chez nous et ça marche, vous aussi pouvez utiliser ça.
Le problème, peut-être tu ne comprends
non,
pas.
Non, mais ça dit que si je n'ai pas fini d'expliquer, tu ne pourras pas.
On va quitter le sujet, s'il vous plaît. On va quitter le sujet. Alors, Justin, c'est vrai que nous avons appris même d'ailleurs aussi la proclamation des résultats du bac. Et c'est vrai, c'est les résultats même d'ailleurs de BPC qui ont fait couler d'encre et de salive. Alors, entre-temps, mais cette fois-ci, c'est le bac avec 34,17% hein, pour ce qui concerne alors le taux de réussite cette année. 34,17%, c'est peu. Et justement, comme le disait d'aucuns, est-ce que ce n'est pas catastrophique?
Est-ce que... Quel est le taux de l'an dernier?
Oui, l'an dernier, je ne l'ai pas actuellement, on va le chercher.
Mais quand on compare, est-ce qu'on a regressé ou bien on a progressé?
Non, ce qui est sûr, on a regressé.
On a regressé. Je vous ai dit qu'il y a problème. Mm. Tout comme au niveau des autres examens, sauf au niveau de,
du bac 1,
CPD, où la moyenne est tellement acceptable. Bon, je pense qu'on doit se poser beaucoup de questions sur le système éducatif dans un premier temps. Et le rôle qu'a joué également les parents et les apprenants également. On a l'impression que ces apprenants, là-même, ne sont pas conscients vis-à-vis de ce qu'ils font à l'école, face à la situation également de leurs études. Maintenant, la problématique est là. Est-ce que ces enfants-là étudient dans de bonnes conditions? Je pense qu'il y a autant de facteurs sur lesquels on doit quand même surfer, analyser et pour voir qu'est-ce qui a mené à ce que cette année, le résultat tourne autour de 35%. Mais j'avoue, quand vous retournez dans les années antérieures, le résultat du bac, c'est autour de 20%, 30%.
Donc, à notre époque.
Ouais, donc on ne peut pas parler de catastrophe. Et j'ai l'impression qu'on a créé un mythe autour de cet examen. Ça fait que les enfants qui sont tellement stressés, qui n'ont pas tellement le cœur ou les reins solides, quand ils se retrouvent dans la salle, ils ont des difficultés à s'en sortir. Donc je pense qu'il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'appréciation, plus de communication, et plus d'engagement réel vis-à-vis de ces examens-là pour rassurer les enfants. Et surtout, que ces enfants-là soient quand même conscients et que les parents également puissent jouer pleinement leur rôle. Et la grande partie, les enfants passent plus de temps à l'école, mais si les enseignants n'arrivent pas à véritablement jouer leur rôle, comme ça se voit, ça doit toujours poser des problèmes. Et je pense que la balle est aujourd'hui dans le camp également des autorités et qui ne créent pas tellement de suspicions tout de cet examen-là.
Mmh. Jean-Baptiste, quelle analyse alors vous faites alors de ce score hein, que les élèves ont eu pour ce qui concerne le bac de cette année?
Quelle analyse? Je crois que vous savez, quand les résultats sortent, on doit quand même se poser un certain nombre de questions pour ce qui concerne les mobiles. Qu'est-ce qui a milité pour que... Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les résultats soient ainsi? Donc, moi, a priori, l'année scolaire s'est déroulée, on le sait, sans beaucoup de gêne au niveau des enseignants. Il n'y a eu aucun mouvement au niveau des enseignants durant toute l'année scolaire. Et maintenant, les résultats sont là. On ne sait pas si c'est les épreuves qui n'ont pas été... à la hauteur des les élèves qui n'ont pas été à la hauteur des épreuves, ou bien peut-être les enseignants, parce que ce que nous savons aussi, c'est qu'il y a vraiment pénurie d'enseignants dans beaucoup de d'établissements où des enseignants, surtout dans les matières scientifiques, qui manquent, et parfois les élèves commencent l'année scolaire un mois, deux mois, trois mois avant que on ne
fasse des gymnastiques pour pouvoir doter certains établissements d'enseignants de mathématiques ou bien de sciences physiques ou de sciences naturelles, bon, sciences de la vie et de la terre, comme ils appellent ça maintenant, ou bien dans d'autres matières littéraires. Donc tout ça l'a fait que peut-être aujourd'hui, soit ça pourrait être lié au manque d'enseignants, soit peut-être les effectifs dans les établissements publics aussi. On sait que ce ne sont pas toujours ce qui est demandé dans les normes, parce que nous savons, on a des établissements où, surtout dans le, vous parlez de baccalauréat en terminale, vous allez voir plus de 50 élèves dans une salle de classe. Je crois que le message ne va pas passer dans ces conditions où l'enseignant sera obligé de faire taire ses élèves d'abord avant de faire passer son message. Et c'est un problème particulier que nous avons dans notre pays, où ça ressemble, ce n'est pas un enseignement qui est dispensé, mais on a l'impression d'être devant une sensibilisation que les enseignants sont en train de faire, parce que si on doit respecter les normes de l'enseignement, c'est 25 ou au plus 30 élèves dans une classe, dans une salle de classe, mais quand ils sont au-delà de 30 jusqu'à avoir 50, 60 élèves dans une salle de classe, je pense que ce n'est pas un enseignement, mais c'est plutôt une sensibilisation. Donc, grosso modo, les responsabilités sont partagées, et aujourd'hui, avec bon, ce qui est de l'État, c'est ce que j'ai dit, mais ce qui est au niveau des élèves eux-mêmes, c'est que il y a de plus en plus manque de concentration, parce que avec la technologie que nous avons aujourd'hui,
et notamment beaucoup, les réseaux sociaux,
donc beaucoup d'élèves sont des accros, ce qui fait que aujourd'hui ils ne passent plus suffisamment de temps pour pouvoir écrire et écrire du bon français, ou bien de bon, surtout aussi l'anglais, c'est-à-dire la littérature. Quand vous voyez ce qu'ils écrivent en littérature, comment même ils recopient les leçons, vous allez voir qu'il y a beaucoup, quand vous prenez des élèves, vous voyez ce qu'ils copient comme cours. Et je crois qu'il y a beaucoup à redire sur ce qui est enseigné, comment ils reçoivent le message qui leur est enseigné. Il y a beaucoup de travail à faire.
D'accord. Sam, c'est vrai que quand on prend ces résultats, c'est vrai, quand on se tourne aussi vers peut-être un pays comme la Côte d'Ivoire, le score aussi, hein, où les résultats tournent autour, ça tourne autour alors de 30% cette année, ça veut dire quand même qu'il y a un problème, hein, en matière alors de ces, surtout alors du baccalauréat aujourd'hui, alors dans nos pays, c'est ça?
Bon, on va utiliser la loi de la proximité pour parler essentiellement du Togo. Après, par extrapolation, on peut partir en Côte d'Ivoire. Donc, pour dire que le résultat de cette année, il m'a beaucoup plus étonné, parce que l'année passée était beaucoup plus meilleure. Parce que l'année passée, pour l'enseignement général, ils étaient autour de 44%.
Tout à fait.
Pour l'enseignement technique, ils avoisinaient 57-58%. Donc, qu'est-ce qui a fait que les résultats ont chuté de façon drastique? Alors qu'au niveau de l'éducation, il y a des réformes qui sont constamment faites, des réformes visant à améliorer la performance des élèves, mais malheureusement, malgré ces réformes, on constate que le niveau est en train de baisser d'année en année, parce que je crois que c'est cette année qu'on a introduit les congés de détente.
Tout à fait.
Et ces congés de détente étaient destinés peut-être à donner beaucoup plus de temps aux élèves pour mieux apprendre, mieux appréhender ce qu'ils ont reçu au cours de l'année scolaire, et puis pendant les congés de détente, ils peuvent mettre en pratique ou mieux reviser et reprendre de plus belle, prendre une nouvelle énergie avant de reprendre l'année. Mais malheureusement, les congés de détente n'ont pas eu le résultat escompté. En plus de cela, il y a ce qu'ils ont appelé l'approche par compétence. L'approche par compétence aussi,
je crois que,
voilà, l'APC, tout ça là, ça vise au moins à redonner ou à relever le niveau de nos étudiants. Maintenant, au niveau du gouvernement, il y a des efforts qui sont faits. Quand on parle des enseignants, je ne pense pas que le Togo a plus d'enseignants avant qu'aujourd'hui. Parce que régulièrement, il y a des recrutements d'enseignants qui se font. Il y a des concours qui se font pour avoir des enseignants. Et récemment, même avant la rentrée, il y a des recrutements. Et non seulement ça, au niveau de Atapame, il y a l'école de formation des enseignants. Il y a de ces structures-là que le gouvernement a mises en place pour essayer de pallier à cette pénurie artificielle d'enseignants. Donc aujourd'hui, on peut quand même dire que le gouvernement a essayé de faire sa part. Maintenant, les réformes qui sont introduites, il faut analyser pour voir les résultats attendus. Est-ce qu'on a pu les atteindre? Si on ne les a pas atteints, il faut revoir la copie et voir dans quelle mesure, quel levier on peut encore appuyer pour que on essaie de relever le niveau. Maintenant, au niveau des élèves, Jean-Baptiste a essayé de l'effleurer. Par le passé, je crois, c'est 3 ou 4 ans en arrière, il y avait interdiction de téléphone à l'école pour tous les élèves. Est-ce que la mesure est toujours en vigueur? Si la mesure n'est pas en vigueur, je crois qu'il faut toujours réactiver. Moi, mes enfants, ils n'ont pas le téléphone avant le bac. C'est-à-dire, mes enfants, si tu n'as pas le bac, tu n'as pas de téléphone. Parce que c'est un objet de distraction pour les enfants. Ça déconcentre les enfants au point où, surtout quand c'est une fille, il y a des problèmes. Quand elle est sur les réseaux, quand c'est des petits garçons qui lui envoient des messages à WhatsApp, elle s'assoit pour apprendre, c'est fini. Elle est détournée de son objectif. Donc moi, je pense que c'est des mesures qu'il faut vraiment essayer d'actualiser pour que le niveau puisse monter. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et le Togo, c'est des pays, de la sous-région. Ce qui est semblable pour, ou bien ce qui est bon pour les élèves d'ici, pourrait être bon pour les élèves de la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un petit village planétaire où les élèves copient les comportements. Avec les histoires de TikTok, tu vas voir les pratiques qui se font là-bas, qui sont dupliquées ici. Souvenez-vous du sextape ou bien, c'est quoi on avait appelé ça? Ça n'a pas commencé ici, ça a commencé dans d'autres pays. Et les enfants ont copié ça ici bêtement. Et ça a conduit certains en prison. Donc moi, je pense que c'est une situation générale. Mais au niveau du Togo, nous avons l'obligation, ou le gouvernement a l'obligation, de faire en sorte que le niveau puisse redécoller.
Tout à fait. Nous avons vraiment l'obligation alors de faire en sorte que le niveau puisse alors décoller. Et vous parlez entre-temps alors des efforts du gouvernement et de tout, et même d'ailleurs de la société également en matière alors de l'éducation. Et Justin, il semble même d'ailleurs que déjà au niveau d'Agbanakin, il y a plutôt une cité même qui a été construite pour les enseignants. Et c'est aussi un effort qui est fait.
Oui, c'est aussi un effort qui est fait. Mais sauf que dans le cas d'espèce, c'est Sa Majesté, le roi d'Agbanaké, au roi Olubo Menton Houzan IX, qui a construit une cité de 12 salles, et de 12 chambres à condition moderne, et qui a offert gratuitement cette cité-là à ses enseignants. Et vous n'êtes pas sans savoir que le village d'Agbanaké, pendant la saison pluvieuse,
inaccessible.
Donc c'est non seulement inaccessible, mais c'est difficile pour les élèves d'aller à l'école. Ça fait que même quand les enseignants sont affectés dans cette zone-là, beaucoup refusent. Et lorsque la saison pluvieuse arrive d'ailleurs, donc c'est la croix et la bannière. Donc les enseignants désertent. Donc Sa Majesté le roi a pris sur lui, et je rappelle au passage que c'est quelqu'un. C'est un enseignant, un professeur des universités des USA, d'Afrique d'ailleurs, et un médecin d'ailleurs qui a fait tellement de recherches et qui a aujourd'hui des licences. Donc il a dit qu'une fois que lui, il est là, il va penser à la jeunesse, non seulement dans ce domaine, mais également dans la thérapie, et tout ce qui va avec la médecine traditionnelle. Et ce qui également est important pour lui, c'est l'avenir de cette jeunesse-là, et la racine africaine. Donc non seulement il a pris cette initiative pour construire cette cité pour les enseignants, et qui a connu la participation de plusieurs cadres, donc d'Agbanaké, résident à Lomé d'ailleurs. Je rappelle au passage que Madame Akiga, elle vient de là. Les cadres qui sont d'Agbanaké, comment on l'appelle, inspecteur Janovi Grégoire, qui vient également de là. Il y a plusieurs personnes à Kpo, communément appelé Delor également, il vient de là. Donc ces cadres-là ont mis tellement, non seulement les moyens pour chercher le terrain sur lequel doit être construit le bâtisse, mais sont également organisés pour se déplacer, pour soutenir lors de l'inauguration officielle de cette cité, qui a connu la présence également du préfet des Lacs, Norbert Bénissant d'Atelli, le maire de la commune Lac 2, Messant Benoît Amavi également, et également d'autres cadres. Donc c'est pour dire tout simplement que lorsque nous parlons de l'enseignement aujourd'hui, c'est un compris qu'il ne faut pas seulement laisser l'État qui est vous et nous ici, mais il faut que chacun également puisse quand même mettre la main à la porte pour aider. Et je rappelle également que le village d'Agbanaké, malgré sa difficulté là, 9 mois d'études dans l'année, 3 mois pour la saison pluvieuse, et ils ne font que 6 mois. Mais chaque fois que les résultats tombent, ils ont toujours les 100%. C'est là où on n'a pas compris.
Ah bon, c'est paradoxal.
Oui, c'est paradoxal. Donc, et à travers cette initiative, il y a également deux initiatives qui sont prises par Sa Majesté, Menton Moussan IX, et à travers la jeunesse pour amener cette jeunesse-là, non seulement à travailler, mais à comprendre que l'Afrique demeure toujours l'Afrique et nous sommes des Africains.
D'accord.
Et qu'il faut penser toujours à la racine. Donc, moi, je le dis, bravo pour cette initiative et qu'il soit toujours en vie pour continuer.
D'accord, ok. Nous allons quitter le sujet de l'éducation pour parler cette fois-ci de la politique. Nous savons que depuis un temps, pour ce qui concerne même d'ailleurs la nouvelle constitution qui nous a basculé même d'ailleurs dans la 5e République, cela fait couler même d'encre et de salive aussi. Et il y a des contestations, beaucoup de contestations bien sûr, au niveau même de la classe, alors de l'opposition. Et cette fois-ci, c'est le journal Actu Express qui nous annonce qu'il y a alors un mouvement qui est en gestation. Ce mouvement est sera trié même par Kofi Nyangnyam, que nous connaissons très bien, Jean-Sylvanus Olympio, qui est le fils de l'ancien président alors du Togo, et François Bokol, qui est aussi ancien ministre de l'Intérieur du Togo. Et voilà, ce mouvement sera mis en place alors le 20 juillet prochain. Alors, pour ce qui concerne Jean-Baptiste, quand on parle aujourd'hui alors de politique, quand on parle de cette contestation de la contre la nouvelle constitution, est-ce que justement avec ces points alors de contestation aujourd'hui, est-ce que ça pourra donner quelque chose?
Bon, je crois que ça doit donner quelque chose. Et non seulement ça, et les personnalités que vous venez de citer, notamment Kofi Yamian, Jean-Sylvanus Olympio et puis l'ancien ministre Bokor,
François Bokor.
Ils sont aujourd'hui à Paris, dans la diaspora togolaise. Et je crois qu'au niveau national, au niveau local aussi, il y a des initiatives endogènes qui sont prises là et là, et ça et là, avec, je crois, le mouvement Touche pas à ma constitution, qui aussi a initié un certain nombre d'activités. Là, je crois qu'il y a 10 jours ou 2 semaines de cela, avec la conférence qu'ils ont organisé à Brodahomey et tout ça là. Mais je crois que de façon globale, la constitution de la 5e République, c'est une constitution qui est vraiment contestée et contestable, parce que aujourd'hui on est dans un flou total. Je dis bien un flou total, parce que quand vous prenez, on nous dit que depuis le 6 juillet, le 6 mai, nous sommes entrés dans une nouvelle constitution. Mais quand vous prenez la constitution même telle que édité aujourd'hui, beaucoup de contradictions, parce que on ne peut pas admettre que qu'on nous dise qu'on est rentré dans une 5e République, et aujourd'hui on n'a aucune institution de cette constitution.
Ah, mais justement, ça se passe d'une manière progressive, puisque nous sommes
transitoire. Bon, tu as phase transitoire. Pendant que la transition, là, ils disent haut et fort qu'on est dans une période transitoire. Là, dans cette période transitoire-là, on est dans quelle république? Avant que cette transition-là ne prenne fin, on est dans quelle république? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas raisonner comme si le Togo est une île déserte, où derrière, ce qui se fait dans ce pays-là, dans ce petit rectangle, va être en déphasage total avec ce qui se passe dans les autres pays du monde. Quand moi je vois par exemple les articles 95 et 96 de cette constitution-là, j'ai lu, je ne sais pas le flou dans lequel on nous met au Togo. On ne peut pas nous dire qu'on prévoit une période transitoire de 12 mois là. Ils se sont basés sur quoi pour fixer 12 mois? Quelqu'un peut se lever aussi pour fixer 24 mois ou 36 mois. Ces députés se sont basés sur quoi pour fixer les 12 mois?
D'accord, ok.
Hein? Donc, de contradictions que moi, je n'arrive pas à comprendre.
D'accord, ok. Sam, oui, on parle alors du mouvement de libération nationale. Aujourd'hui, est-ce que notre pays a besoin d'être libéré?
Bon, moi, je ne sais pas, vous parler de 20 juillet pour...
Le lancement, alors,
le lancement, ça sera lancé où? C'est à Paris ou c'est à Lomé?
Enfin, ce serait quand même sur Zoom, hein, quelque chose comme ça.
Bon... Ok, moi je pense qu'en interne, il y a déjà un mouvement qu'on appelle quoi, Touche pas à ma constitution,
tout à fait,
qui est en train de faire des rencontres, oui, d'organiser des meetings, des sensibilisations. Moi je pense même que cela participe à la vitalité de la démocratie. Il y a eu une nouvelle constitution qui a été adoptée, il y a des gens qui se disent mécontents et qui le manifestent à leur manière. Mais pour autant, on est plus de 8 millions de Togolais. Pendant qu'il y a d'autres qui contestent la constitution, il y a d'autres qui approuvent cette même constitution. Donc, c'est la vitalité de la démocratie. Ceux qui contestent, ils vont continuer par contester. Mais ceux qui se plaisent dans la nouvelle constitution, ils vont continuer par s'y plaire. Et justement, moi, je pense que il y avait une belle occasion pour les Togolais de s'exprimer parce que la nouvelle constitution, là, a été déjà adoptée au niveau du Parlement avant l'organisation des législatives.
Quel Parlement ?
Non, je parle du Parlement avant les législatives. Avant les législatives, il y avait quel Parlement ? Avant les législatives, on avait quel Parlement ?
Continuez.
Voilà. Donc, avant, on a eu l'occasion, chaque bord politique, que ce soit ceux du pouvoir ou ceux de l'opposition, chacun avait eu l'occasion de parler à ses militants pour voir, parce que les gens du pouvoir, quand ils sont allés, ils demandent à leurs militants, si vous votez pour nos députés, si vous votez pour nos conseillers régionaux, vous avez voté pour la nouvelle constitution qui est adoptée. De la même manière, ceux de l'opposition qui ont participé à l'élection ont aussi demandé à leurs militants de sanctionner cette nouvelle constitution qui était en gestation. Et au final, au soir c'était le 29 avril, les Togolais ont opté. Ils ont opté et on a vu les résultats.
On n'a pas voté pour la constitution.
Tu vas laisser que je finisse, parce que tu as fini de développer. Faut garder ton calme. C'est comme ça le débat intellectuel se fait. Moi, je pense que il est important pour ceux qui veulent contester de contester. C'est la vitalité de la démocratie. Mais rappelons aux auditeurs qu'il y a eu une élection au cours de laquelle le parti au pouvoir s'en est sorti avec la majorité écrasante de députés, signe que la nouvelle constitution qui était en gestation a été adoptée par les partisans du pouvoir. Mmh. Et donc moi je pense que pour ceux qui veulent contester, ils peuvent continuer par contester, il n'y a pas de problème. D'accord. C'est la démocratie qui avance.
D'accord. Justin, on dirait que c'est la démocratie qui avance et que déjà pour ce qui concerne les contestations, on doit avoir toujours ces contestations, c'est ça?
Bon, la démocratie qui avance, la démocratie ou la démocrature, je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est une question de principe. Et ce principe-là, moi je dirais même qu'il est plus que sacro-saint. Lorsqu'il est question de changer une constitution, donc on passe par le référendum. Aller dans la première république togolaise, donc le peuple a été appelé à se prononcer. Et c'est pas référendum qu'on est tombé dans la première république, dans la deuxième république pareil, dans la troisième république pareil et dans la quatrième république pareil. Ça voudrait dire quoi? Le parallélisme des formes exige que lorsqu'il est question même de changer le mode de fonctionnement de la république, la loi fondamentale, il faut interroger le peuple. En faisant quoi? En mettant le test fondamental dans l'opinion pour qu'il y ait débat et qu'après on appelle le peuple à se prononcer le oui ou le non. C'est ce qu'on appelle le référendum, c'est le principe.
Puisqu'on parle d'un contrat social.
Oui, tout à fait. Donc, dans le cas d'espèce, le Togo fait l'exception dans la sous-région. Et c'est ce qui a amené même le député ou les députés sénégalais à interpeller la présidente de l'Assemblée, comme on l'appelle, du Parlement, de la CDAO, Madame Maïmouna Toulafoua-Denez. Et ça fait le tout sur les réseaux sociaux. Et nous sommes à la résilience. C'est pas bien. On peut beau expliquer quoi que ce soit. J'ose croire que le président de la commission électorale indépendante CENI, en convoquant le corps ou en appelant les Togolais à aller voter le 29 avril dernier, n'a pas demandé aux Togolais d'aller se prononcer sur une constitution. Ce sont les élections législatives. C'est bien beau. Le parti majoritaire uni a raflé la majorité sur 113. Il se retrouve avec 108 députés. Moi, je dis bravo. Mais pourquoi ne pas aller sur cette ligne-là, appeler la population à se prononcer sur la nouvelle constitution? Un, le parallélisme des formes n'est pas respecté et ça fait débat que d'essayer d'interpeller le gouvernement togolais. On a envoyé des émissaires au niveau du département américain, ça ne suffit pas. Le ministre Bahara et autres ont rencontré les diplomates la fois dernière, puis après, c'est la presse, pour tenter d'expliquer. Aujourd'hui, les députés sont un peu partout, on dit, ben là, on explique. Vous expliquez quoi? C'est un coup de force qui se fait. Et sans... Ça, on va le dire. Parce que tel que, quand vous lisez même la constitution, la cinquième dont il est question aujourd'hui, tel que les choses sont tellement fusillées, c'est taillé sur la mesure d'une seule personne, le chef de l'État. Il faut, sans embâche, il faut avoir le courage de dire. C'est ce qui a amené ces groupes-là à se constituer. Moi, je dis que c'est une question de combat qui se mène au plan diplomatique et au plan interne. Parce que non seulement, comme on appelle le front, touche pas ma condition, mène son combat ou son débat ici, en allant voir les, comment on appelle, les diplomates ici au Togo, qui a mérité peut-être les autorités togolaises.
Il y a aussi les organisations, alors,
les organisations également, et tout. En dehors de ça, au niveau de la diaspora, il y a un groupe qui s'appelle le G9, qui mène également son combat. En dehors de ces trois-là, qui porte sur les fonds baptismaux un mouvement maintenant d'envergure. Ça vous a dit quoi? Eh bien, on ne peut pas laisser une seule famille continuer par gouverner le Togo vite et dame. Ça, c'est un principe qui est simple.
D'accord, merci beaucoup. Je pense que nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisqu'il est déjà midi dépassé. Et donc, nous allons en arrêter là et donner aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'ils s'impatientent à leur entrée en ligne pour participer à ce débat. Et donc, vous pouvez nous appeler sur le 91 36 63 75. 91 36 63 75. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez réagir au club de la presse. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 115. Non, et toutes mes excuses parce que le 22 21 ne fonctionne pas. C'est plutôt sur le 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour Pelé.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, okay. Allez-y.
Je salue le plateau. Bon, pour la cinquième république, dont on reste toujours à dire que nous sommes dans le flou, ou bien ne sais pas, je pense que c'est clair et net. Parce qu'on dit que nous sommes dans une transition. Est-ce que la transition va échouer? Est-ce que la transition va aller à son bon port? On ne sait pas. Ça, c'est un. Maintenant, si des Togolais veulent nous dire ici que les élections passées, ça a été un référendum, je suis désolé. Parce qu'il ne faut pas que des gens restent dans le flou, tel que faire le RPT venir et dire qu'il veut enlever les élections dans la tête des Togolais. C'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Parce qu'on a été aux élections législatives et régionales, point barre. Pour aller au référendum, il faut aller aux élections référendum. Si les gens sur le plateau là-bas n'ont pas voté pour la Troisième République, au moins ils ont voté pour la Quatrième République. C'est que c'est au référendum qu'il faut aller. Point. Mais maintenant, je voulais arriver pour parler de ce qu'il faut faire le débat pour les fêtes traditionnelles que nous tous nous aimons. Que cette fête traditionnelle, parce que sur le plateau, il y a quelqu'un qui a parlé d'abord qu'ils ont créé un comité de mobilisation de fonds pour faire ce qui se fait ça dans la région de Kara. On veut souhaiter que Togo Télécom, Timoni, tout ce qu'on est en train de voir, il y a le foie, il y a même le foie de Kara, tout ça là, de Rivala, mais tout ça là, on n'a jamais vu ça dans les autres fêtes. On ne peut pas nous dire que ce n'est pas le gouvernement qui organise ça, c'est le gouvernement qui organise. Il faut que le gouvernement organise aussi pour les autres fêtes aussi, c'est ce que nous disons. Pourquoi? Parce que depuis 1963, on nous a dit qu'il n'y a pas, comment dirais-je, la réconciliation. Mais pour une réconciliation dans une république, ce n'est pas de la sorte qu'il faut organiser les choses.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et intervenir dans le débat de ce matin. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
C'est Claude.
Claude, vous nous appelez d'où?
Je t'appelle de nous, à Gwezongo.
À Gwezongo, allez-y, Claude.
Merci beaucoup. Et je serai bref. Hein. Si on n'a rien à dire là, il vaut mieux se taire. Si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Le journaliste de l'hôtel qui parle là-bas, là, qui n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Merci.
Et Claude, 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et réagir alors au club de la presse de ce mardi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est
Papa Sodiné.
Voilà, depuis Amoutier V. Allez-y.
Ah ouais. Moi, je voudrais parler à propos de l'élection passée là. Celui qui dit que l'élection passée a servi de référendum, peut-être qu'il n'a jamais voté ce qu'on appelle référendum, ou bien il ne connaît pas bien le mot. Référendum, vous allez sensibiliser la population d'abord, et ensuite vous mettez le test. Vous aimez ou non, vous aimez oui ou non, pour voir la majorité. C'est ça, référendum. Peut-être la personne ne connaît pas bien. Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée à toi aussi, Papa Sodiné, pour votre intervention. Merci beaucoup. 91 36 63 75, c'est sûr que ce numéro que vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Monsieur Mauto.
Oui, Monsieur Mauto.
Salut, plateau.
Oui, salut, allez-y.
Oui, moi, je ne partage pas l'avis de Monsieur Sam. Les élections qui sont passées, la fin de l'année, on ne peut pas appeler ça une élection au Togo. Dans un pays qui n'a pas la vérité des villes, on va comparer une élection avec un référendum. Moi, je suis désolé. Hein. Merci, moi, je
D'accord, merci pour votre intervention. 91 36 63 75, 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et réagir au Club de la Presse à l'heure de ce mardi. Allô?
Ah oui, c'est notre...
Ah, allô, bonjour.
Bonjour. Bonjour,
Marie. Oui, c'est monsieur?
C'est Natéba.
Ah, monsieur Natéba, allez-y.
Oui. Je vous appelle de Delia. Je vais pas l'émission.
Oui, oui, allez-y, vous y êtes, allez-y.
Moi, je ne vous fais pas comme un rappeur et journaliste. Vous avez suivi une formation, vous partez du tout. Pourquoi les gens font ça? Ce n'est pas bien. Il faut que les tribunaux changent leur comportement. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, Natéba, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler à intervenir dans l'émission aujourd'hui. Allô?
Oui, oui, c'est Pélé qui est venu.
Oui, Pélé.
Non, je voudrais aussi tirer l'attention ici. Ça, c'est mon ami personnel, un des Togolais, qui vont toujours dire que oui, ils sont dans la logique du RPT. Ils vont désapprendre. Ils vont désapprendre parce que ce qu'on connaît comme référendum, on connaît. Et si leur RPT a la majorité, le RPT a la majorité, ben, il n'y a qu'à organiser le référendum. Il n'a qu'à organiser un référendum. Mais il a décidé, avec 100 000 décideurs, il peut avoir 95% de référendum. Mais il n'a qu'à aller. C'est tout. Mais vous allez, il appuie sur un bouton et il a testé le public. Et puis on dit qu'on va référendum. C'est normal. Un référendum, c'est un processus électoral. Pourquoi on aille, c'est tout. Si ça passe, c'est-à-dire tout ce qui se passe là, pourquoi le peuple aime la violence? C'est pas normal.
D'accord. Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 91 36 63 75, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Ouais, c'est Jean. Hein?
Jean, vous nous appelez d'où?
Comment ça va?
Ça va, et chez vous?
J'appelle d'Agoué.
Agoué, allez-y, Jean.
Pardon, je vous en prie, il faut recadrer les auditeurs qui s'en prennent aux journalistes. Le journaliste, il a fait son débat. C'est pas la peine, il faut les recadrer. Chaque jour, je vous suis. Il faut les cadrer. Pardon, monsieur le journaliste, il faut les cadrer. Les gens qui viennent embêter les journalistes là. Les journalistes n'ont rien fait. C'est pas bien. Merci.
D'accord, merci beaucoup, Jean, pour cette intervention. 91 36 63 75. 91 36 63 75. C'est sûr, ce numéro que vous pouvez nous appeler, intervenir alors au Club de la Presse, alors de ce mardi. Allô? Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute. Votre nom,
c'est... Allô?
Décidément, il n'a pas de retour. On reçoit notre auditeur 91 36 63 75. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler et intervenir dans l'émission Club de la Presse de ce mardi. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Monsieur Kofi.
Oui, Monsieur Kofi.
Comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord, allez-y.
J'aimerais tout simplement dire à votre collègue qui parlait de cette... de lever de fonds pour les fêtes traditionnelles, que ça se fait dans tous les contrées. Donc, c'est pas bien de dire oui, si On peut apprendre comment les autres ils font. C'est pas bien. Je pense que je ne dirais pas que je prends, par exemple, Bissoso. Ça date maintenant, ça fait des années. Je sais pas en quelle année les autres fêtes traditionnelles ont commencé, mais je sais que Bissoso, ça date. Ça date. Donc, et dans les autres contrées aussi, mais dire que oui, si vous voulez, on va, c'est pas bien. En plus, il faut qu'il soit un peu humble dans cette intervention. C'est ça qui fait que, à chaque fois, lorsqu'il prend la parole, il est un peu agressif.
Monsieur Kofi.
Et ça fait que les
allô,
gens.
Allô, monsieur, allô, monsieur Kofi.
Merci.
Allô?
Il est parti. Je vous écoute.
Oui, je vous dis juste alors de vous prononcer alors sur les sujets débattus. Ce serait très intéressant
oui, hein,
de vous
écouter.
Mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit sur les sujets. C'est un peu ça. Alors, ok, on se passe alors de cet auditeur et on prend un autre auditeur, bien sûr. 91 36 63 75. Quand vous nous appelez, prononcez-vous sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. 91 allô? 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Je vais très bien.
D'accord, votre nom c'est?
Monsieur Kwami.
Monsieur Kwami.
Oui.
Vous nous appelez de quel quartier?
Je vais intervenir sur le village d'Aba. Parce que moi, je suis journaliste. Parce que là, c'est que le journaliste, je ne sais pas si c'est le village qui a parlé du village, je ne sais pas.
Non, c'est Justin.
Justin. Oui. Le roi, c'est un roi tout pour féliciter parce qu'il a fait un grand travail. J'aimerais vous dire que le village d'Adanaké va vous surprendre chaque année. Parce que surtout sur le plan éducatif, Adanaké va vous surprendre. Parce que les enfants travaillent bien. Et ce que le roi vient de faire, mettons à Oussan-Rupina qui vient de faire la félicité. Et les autorités, nous les remercions. Et les cadres du village d'Abanato, on les remercie pour les travaux qu'ils sont en train de faire.
D'accord.
Pour le développement d'Abanato.
Merci.
Je vous invite à aller visiter le village. Vous allez voir les travaux, surtout l'école primaire qu'on a encore reconstruit. Le professeur Amar Bani qui a fait l'initiative et pour la construction de l'école primaire.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Kwami, pour votre intervention. 91 36 63 75. Allô? 91 36 63 75. Nous attendons, je pense que nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission, lors de ce jour. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est Gérard.
Votre nom c'est?
Gérard.
Vous nous appelez de quel quartier?
Bon, je suis à Supetako.
Supetako, allez-y, Gérard.
Oui, je salue le plateau.
Oui, le plateau aussi, vous savez.
Oui, bon, souvent. Je suis mon frère Sam Debo, que j'aime beaucoup. Mais bon, je l'invite à cesser d'être le président de la politique togolaise. C'est-à-dire que quand nous voyons les élections qui se sont déroulées, d'abord, quand on parle la sémantique, on ne peut jamais comparer un référendum aux élections législatives et régionales. Il voudrait dire qu'une fois que la constitution a été modifiée et qu'on est passé à la 5e République, que les opposants et le parti au pouvoir avaient fait campagne et beaucoup d'opposants devraient dire que normalement, on devait sanctionner le pouvoir s'ils veulent effectivement qu'on n'amène pas cette constitution. Mais ce qu'il ne dit pas, en disant que voilà le pouvoir raflé, ce qu'il ne dit pas, c'est que avant cette élection législative électorale, il a été formellement interdit aux partis politiques de faire campagne, de pré-campagne à l'intérieur du pays. D'autres ont été même menacés. On a tout fait pour empêcher les leaders des partis politiques à l'intérieur de faire campagne. De faire pré-campagne, c'est pas campagne. Je vous dis, à l'intérieur, certaines populations ne connaissent même pas les logos des partis politiques. Quand vous voyez à l'intérieur, ce n'est que le
le parti unique qu'on voit. Que voulez-vous que la population fasse? De deux, si jamais, j'en viens là-bas, il n'a qu'à me le dire franchement, si jamais on proclamait les résultats, comme c'était fait en France, une fois que les élections ont été, c'est-à-dire les bureaux de groupe ont été fermés, de pouvoir faire, on a proclamé. Pourquoi attendre quelques 2, 3, 4, 5 jours pour proclamer? Beaucoup de populations, beaucoup de Togolais ne croient pas en ces résultats-là.
D'accord. Merci beaucoup, Gérard, pour votre intervention. Je pense que Gérard, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de la réaction téléphonique. Alors, pour le compte de cette émission de ce mardi, nous revenons en plateau, chers confrères, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Sam, vous avez écouté les uns les autres alors se prononcer alors sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Je n'ai pas que écouté. J'ai été
interpellé.
Interpellé. J'étais à la vindicte populaire. Il faut que je réponde. Parce que déjà, la première précision, je n'ai pas dit que le Togo a remplacé les législatives par un référendum.
Tout à fait.
Dans mon explication, je n'ai même pas parlé de référendum, mais je me suis dit, à partir du moment où la constitution a été adoptée avant la tenue des législatives, et le camp présidentiel et le camp de l'opposition, ils avaient la possibilité de sensibiliser leurs militants du côté du pouvoir. Ceux qui vont voter pour les députés et les conseillers régionaux unir, ça veut dire qu'ils ont opté pour la nouvelle constitution. Du côté de l'opposition également, si les gens ne veulent pas que la nouvelle constitution s'applique, il faut sanctionner la nouvelle constitution en choisissant pour les députés et les conseillers régionaux de unir. Je crois que c'était très clair. J'ai quand même un certain âge. J'ai connu des élections référendaires en 92. Moi-même, j'avais déjà l'âge de voter. J'ai voté pour le référendum. Et donc, je ne suis pas en train de dire que les législatives étaient le référendum. Mais justement, c'était une occasion pour cette opposition de demander à ses militants de sanctionner unir dans les urnes parce que, justement, elle n'était pas d'accord pour la nouvelle constitution. Quand on parle des résultats des élections législatives, pour le moment, nous sommes journalistes. Et moi, jusqu'au jour où d'autres résultats avec des preuves viendront me conforter dans la position que les résultats qui ont été publiés sont faux, je croirai. Sinon, je fais avec les résultats officiels publiés. Et je pense que le code électoral même et le code de la presse nous font obligation de respecter les résultats officiels. Puisque sur quelle base je vais avancer d'autres chiffres si je n'ai pas les preuves? Donc ça, c'est le second aspect. En ce qui concerne les fêtes nationales, je disais que ce qui se fait chez nous dans le Tchaoudjo, on pouvait le partager avec nos amis de Yoto. Ce n'est pas une vantardise, mais c'est un benchmark que je suis en train de faire. C'est-à-dire que les bonnes pratiques qui se font ailleurs, si vous pensez que vous avez emprunté une voie qui n'a pas donné d'issue, on peut essayer de copier ce qui se fait ailleurs pour essayer de le dupliquer sur ce que vous faites pour avoir le meilleur résultat. Maintenant, concernant M. Kofi, oui, c'est M. Kofi qui parlait de lever des fonds, mais il faut que je lui rappelle que je n'ai pas de leçon à recevoir de lui, parce qu'il dit que je parle avec une agressivité. Je ne sais pas qui il est, bon, peut-être il me connaît puisque l'émission est retransmise sur les réseaux sociaux, mais moi je ne le connais pas, mais je veux lui rappeler que je n'ai pas de leçon à recevoir de lui. En ce qui concerne M. Gérard, il disait que je fais le pédant de la République. Ça dit que c'est des expressions que lui-même il peut utiliser. Peut-être qu'il est le seul à détenir la quintessence de ce qu'il dit. Mais moi, je fais mes analyses. Et nous sommes dans une démocratie. Je ne sais pas pourquoi quand nous venons, nous faisons nos analyses. Dès que les gens n'écoutent pas le son de cloche qu'ils veulent, ils jettent les journalistes à la vindicte populaire. Nous ne détenons pas le savoir. Mais nous apportons notre contribution pour éclairer les sujets de l'actualité. Et il revient maintenant aux auditeurs et aux Togolais de se faire une opinion de ce que nous disons. Nous ne venons pas donner une recette toute faite et nous disons aux gens, vous devrez accepter ce que nous disons. Nous faisons nos analyses et il leur revient de choisir dans ce que nous disons ce qui est positif pour eux et ce qui est négatif pour eux.
D'accord,
voilà, j'en ai terminé.
Merci beaucoup, Sam. Oui, Justin.
Oui, beaucoup nous ont écoutés. Ils se sont prononcés. Moi, je dis que nous sommes à la croisée des chemins, le Togo notamment. Donc nous devons faire extrêmement attention, nous qui sommes les hommes des médias, parce que beaucoup attendent de nous, surtout lorsqu'il y a la vérité, il faut avoir le courage de le dire, et quel que soit le prix à payer, parce que c'est un choix quand on est journaliste. Et en dehors de ça, je ne vais pas me prononcer sur ce que les uns et les autres ont dit, mais sauf que j'aimerais profiter de l'occasion pour donner des conseils. Et Pascal, vous n'êtes pas sans savoir que vous et nous, on a eu à traiter un dossier qui concerne l'expropriation donc du domicile de Sa Majesté Ayayayi à Logavi dans le lac 3. Donc aujourd'hui, le dossier a suivi son cours plus de 18 ans après. Donc Sa Majesté Ayayayi, que tout le monde connaît, qui a eu à aider les populations, notamment dans cette zone-là, à retrouver sa maison. Il a fait son entrée la fois dernière avec sa famille et ça a été une joie pour lui. Donc j'aimerais profiter de l'occasion pour dire à ceux-là qui confient leur maison à des proches, à des gens, parce que voilà, de faire extrêmement attention. Parce que s'il a pu gagner dans ce dossier, c'est parce qu'il a eu tous les papiers et que Okameto Kanu Sedi n'a pas réussi, qu'on appelle communément appelé protocole, n'a pas réussi à s'emparer de sa maison. Donc faisons énormément attention.
D'accord.
Je termine en présentant mes condoléances à la famille Amaglo.
D'accord.
Docteur James Amaglo n'est plus en vie. Le maire de la commune Lac 2, Golf 2, autant pour moi. Mes condoléances à toute sa famille.
D'accord.
Et sa famille politique, le FDR et Maître Apivon.
Ok, merci beaucoup, Justin. Oui, Jean-Baptiste.
Oui, Pascal, je crois que nous n'avons pas fait trop de commentaires sur ce que les auditeurs ont dit, mais nous avons obligation de vérité parce que notre métier nous abstreint à la vérité et nous devons servir le peuple dans la vérité parce que je ne vois pas en quoi nous ne devons pas dire la vérité à ce peuple qui en a tant besoin. Et beaucoup ont parlé des élections et aussi de la constitution et aussi des faits traditionnels. En ce qui concerne les élections, nous le disons, nous allons le réitérer. Je crois que nos institutions ne jouent pas pleinement leur rôle en ce qui concerne l'organisation des élections parce que chaque fois, il y a à redire au niveau des élections. Donc, ceux qui incarnent les institutions au niveau, surtout les institutions en charge des élections, ils doivent revoir leur copie. Parce que quand vous n'êtes pas crédible, je crois que les populations n'auront pas foi aux élections qui se sont organisées. Et ça va créer toujours des suspicions et peut-être des lendemains incertains pour notre pays.
D'accord.
Okay. Et au-delà de ça, je vais terminer avec la Constitution. Je crois que la Constitution de la 5e République, qu'on nous vante tant, est problématique. Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle et l'humilité intellectuelle de le dire que cette constitution est vraiment problématique.
Ah, d'accord.
Et au-delà de ça, si le gouvernement estime que la constitution ne souffre d'aucune ambiguïté, je ne vois pas en quoi un pays souverain qui adopte sa constitution va réunir les diplomates pour expliquer quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est qu'il y a problème qu'on invite les diplomates. Sinon, un pays souverain, une constitution est adoptée, point barre.
D'accord,
on n'a pas besoin d'explication.
Merci beaucoup Jean-Baptiste pour votre intervention. Sam Dobo, merci d'être passé à l'heure dans cette émission.
C'est un plaisir de toujours échanger avec les auditeurs.
Jesse Anani, merci à toi.
Mais merci également
d'être passé à l'heure dans cette émission.
C'est un plaisir, voilà. Pas dit partager d'informer les auditeurs.
Tout à fait, c'est toujours un plaisir pour moi aussi d'animer cette émission avec vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Thomas Ete d'ATV qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Géraud Akuta. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.